Bien, nous pouvons commencer, il est 10 heures. Alors, je rappelle que le cours est construit comme une série d'études de cas ou d'études de textes, et de textes qui ont une commune particularité, c'est-à-dire qu'ils ont franchi les frontières entre les nations et entre les langues, et que leur traduction, à partir de l'original, a permis la construction de nouvelles significations et un effet original pour ces textes. Vous vous souvenez que dans les deux premiers cours, je m'étais attaché à ce texte de Las Casas, la destruction des Indes, avec d'une part la signification que pouvait avoir ce texte d'abord dit, manuscrit, puis imprimé dans l'Espagne entre 1542, date de sa rédaction, et 1552, qui était la date de sa publication, et d'autre part, comment que plus tard, il a acquis des significations différentes, à la fois par la traduction française de 1578 dans le contexte du soulèvement des provinces unies, du moins de certaines d'entre elles, et d'autre part dans le contexte anglais l'année suivante, 1579, dans le contexte des tensions entre l'Angleterre et l'Espagne. Aujourd'hui, je voudrais, pour aujourd'hui et la semaine prochaine, puisqu'il y aura un dernier cours pour l'année 2012, jeudi prochain, et nous reprendrons pour deux cours au mois de janvier, le 10 et le 17. Donc pour ces deux cours d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, nous resterons en Espagne, mais un siècle plus tard, avec un autre livre qui a connu à l'égal, ou peut-être plus encore que Las Casas, une circulation dans toute l'Europe moderne et même après, c'est-à-dire dans la 19e, des 20e siècles. C'est le texte de Baltasar Gracián, j'ai écrit au tableau, Oraculo Manual y Arte de Prudencia, l'oracle manuel et l'art de prudence, publié en 1647 à Huesca. Et ce texte, un peu comme le cas de Las Casas, il y a 40 ans, une quarantaine d'années plus tard, a acquis une deuxième existence européenne avec la traduction française de Hamelot de La Houssaye de 1684 sous le titre « L'homme de cour ». Et ce texte, en particulier dans la traduction française ou les traductions qui ont été faites à partir de la traduction française dans toutes les langues européennes, on reviendra sur ce sujet, la seule traduction indépendante d'Hamelot de La Houssaye étant des traductions italiennes, mais toutes les autres traductions sont des traductions de traductions, a acquis un statut tout à fait fondamental dans la réflexion philosophique, la réflexion politique, la réflexion morale. On le trouve commenté et traduit par Schopenhauer. Il a été l'objet aussi d'analyses de la part de Nietzsche. Et mon point de départ, puisque c'est la rencontre avec ce texte de Gracián, elle est liée à cette lecture, c'est le livre de Norbert Elias de 1939, « Le procès de civilisation ». Pour ceux peut-être qui le savent, que le procès de civilisation, ce livre de 1939 de Norbert Elias, a pour objet fondamental de décrire et comprendre les transformations de la structure de la personnalité, de l'économie psychique des hommes et des femmes du monde occidental entre la fin du Moyen-Âge et le 19e siècle. Ces mutations de la structure de la personnalité ou de l'économie psychique étant caractérisée par le contrôle des émotions, la maîtrise des pulsions, l'élévation du seuil de la pudeur, l'éloignement de la proximité des corps, tout un ensemble de comportements qui sont fondés dans une intériorisation de l'autocontrôle, et qui est celle qui permet de brider les impulsions ou de brider les affects. Et le livre d'Elias, à partir de cette description d'une transformation pour lui fondamentale de la structure de la personnalité, essaye de comprendre comment elle s'est produite, et donc du coup la met en rapport avec une forme nouvelle d'exercice du pouvoir, qui est celle du roi absolu, qui doit d'une part l'emporter sur ses concurrents qui pourraient aussi viser cette statue de souveraineté et qui doit d'autre part, à l'intérieur de son royaume, perpétuer son propre pouvoir en renforçant, c'est la deuxième grande raison, l'équilibre des tensions qui peut exister entre les classes sociales dominantes qui pourraient mettre en danger son pouvoir, comme on le voit quelquefois dans des révoltes des XVIe, XVIIe siècles, mais qui, si l'équilibre des tensions entre elles est suffisant, finalement, reproduisent cette structure de l'absolutisme. Et c'est pourquoi que cet équilibre des tensions, dans le cas français, qui est le laboratoire étudié par Elias, s'établit entre la bourgeoisie des officiers, d'administration et de justice, d'un côté, et de l'autre côté, l'aristocratie traditionnelle, la noblesse d'épée, qui se trouve à la fois protégée et contrôlée par la création de la société de cour. C'est cet immense schéma descriptif des transformations politiques, sociales et psychologiques de la première modernité, taillé largement entre la fin du Moyen-Âge et le début du XIXe siècle, qui caractérise le projet grandiose du livre de Norbert Elias, traduit en deux volumes en français, « La civilisation des mœurs et la dynamique de l'Occident », mais qui n'est qu'un seul livre, même s'il était en deux tomes, en allemand, sous le titre du « Procès de civilisation » ou « Le processus de civilisation ». Alors c'est dans cette architecture qu'on rencontre, dans l'œuvre d'Elias, dans une note, une très longue note, du volume 2 du « Procès de civilisation », la note 134, dans l'édition allemande, une référence à Baltasar Gracián. Et malheureusement, la note a été très largement amputée dans la traduction française de la dynamique de l'Occident, qui n'en a gardé que l'aspect théorique, sans conserver les références explicites qui étaient faites par Elias à Baltasar Gracián. Le problème ou le thème qui fait venir cette référence à Gracián, c'est une réflexion de Norbert Elias sur les différences qui peuvent exister entre la civilité de l'aristocratie de cour et, d'autre part, les règles de la morale bourgeoise. Un contraste qui est à la fois chronologique, mais qui est en même temps aussi synchronique pour les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans cette note traduite, on voit cette référence, puisqu'il est dit que l'oraculo manual de Gracián par Amelot de Lahousset est, je cite, « en quelque sorte le premier manuel de la psychologie de cour, Handbuch der öffischen Psychologie, de même que le prince de Machiavel est le premier manuel classique de la politique absolutiste des cours princières, même mot Handbuch der öffisch absolutistischen Politik. Donc un parallèle entre Machiavel comme manuel de la politique absolutiste de cour et Gracián comme manuel de la psychologie de cour. Et pour Elias, le livre de Gracián a une double importance. La première importance, c'est que pour lui, on peut lire dans le livre de Gracián, sous la forme de maximes, sous la forme d'aphorismes, comme on peut les lire chez La Rochefoucauld ou La Bruyère, des formes de comportement que d'autres textes donnent à l'état de la pratique de la vie de cour, par exemple Saint-Simon. Et dans cette description, la citation serait la suivante, que l'on ne trouve pas dans la traduction française. Nous trouvons dans Gracián et après lui, dans La Rochefoucauld et La Bruyère, dans la forme de maxime générale, toutes les formes de comportement que nous rencontrons, par exemple, chez Saint-Simon, dans la pratique même de la vie de cour. Et le terme de « praxis » est le terme qu'utilise Elias en allemand, « der Praxis des öffischen Lebens », la pratique de la vie de cour. « Maintes et maintes fois, écrit Elias, nous rencontrons des injonctions quant à la nécessité de maîtriser les affects. » Alors c'est pour cela que Gracian est fondamental, parce que pour lui, c'est le Hambuch, le manuel dans lequel cette transformation de la psychologie de cour, qui est à la fois une nécessité consciente et qui est d'autre part le résultat possible d'une incorporation d'un autocontrôle, contrôler ses affects, est répété. Et Elias cite deux des aphorismes ou des maximes que l'on rencontre dans Balthazar Gracian: n'agir jamais devant la passion autrement on pardon n'agir jamais durant la passion autrement on gâtera tout, ou bien l'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent de ce que sont les choses, la passion porte en lui et non pas la raison, qui est l'aphorisme 273. Donc, on voit que dans ces deux aphorismes, n'agir jamais durant la passion l'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent de ce que sont les choses, la passion parle en lui et non pas la raison. La passion parle en lui et non pas la raison. Qu'il y a là le commandement fondamental, l'injonction fondamentale. Et du coup, que découle, et ce sont là encore des aphorismes cités par Elias dans cette longue note 134, découle des pratiques de la vie de cour, par exemple la nécessité de l'observation de l'autre, connaître à fond le caractère de ceux avec qui l'on traite, et du coup la nécessité aussi de la connaissance de soi, connaître son défaut dominant, pour arriver à ce qui définit pour Elias l'essentiel dans le texte de Gracian, c'est-à-dire la nécessité, se connaissant soi-même et connaissant l'autre, de la dissimulation, savoir jouer de la vérité, l'aphorisme 210, ou l'aphorisme 151, penser aujourd'hui pour demain et pour longtemps. Et donc, du coup, que cette nécessité de la dissimulation amène Elias à la réflexion qui l'intéresse dans ce moment-là du processus de civilisation, c'est-à-dire la différence entre cette rationalité de cour, qui doit justement se définir comme rationalité parce qu'elle domine et maîtrise les passions et qu'elle peut jouer avec les apparences, et de l'autre côté, une moralité bourgeoise qui va, ou déjà au XVIIe ou XVIIIe siècle, déjà condamnait ces manière de définir les comportements comme immoral, aussi bien en politique avec Machiavel et dans le cadre du comportement social avec Balthazar Gracian. Et du coup, il définit la rationalité curiale en opposition avec la moralité bourgeoise. D'abord parce que dans cette rationalité de cour, la religion joue un très faible rôle. La légitimité des comportements n'est pas donnée en référence à une norme ou une exigence religieuse, elle est donnée en référence au rapport avec les autres. Et de là l'importance de cette idée de la praxis. Ce rapport avec les autres peut être pensé à travers la métaphore de la guerre, chez Gracian, Maxime 165, « faire bonne guerre », et du coup le jeu social est défini comme à partir du lexique militaire, ou bien elle peut être pensée, cette rationalité de cour, sur le mode de la félicité. Faire des amis, c'est la maxime 111, avoir des amis, c'est le second être, tout ce que nous avons de bon dans la vie dépend d'autrui. Et du coup, on voit que ce jeu d'alliance ou d'opposition dans le langage des rapports entre les individus ou dans le lexique des métaphores de la guerre, souligne cette idée que les interdits ou les obligations dans cette rationalité de cours sont formulés à partir des exigences ou des nécessités de l'échange social, de la praxis, et pas du tout à partir de ce qui caractérise pour Elias une forme de moralité bourgeoise, c'est-à-dire l'incorporation de commandements moraux qui n'ont pas besoin d'être justifiés, qui sont identifiés à une voie intérieure et en quelque sorte qui façonnent la conscience de l'individu. Et pour Elias, c'est cette modalité qui, dans le cas de cette moralité bourgeoise, donne sa forme à ces mécanismes d'autocontrainte qui ne sont pas liés avec leur capacité à moduler les comportements sur les exigences de la situation, mais qui sont en quelque sorte comme l'expression d'un surmoi fait de l'incorporation de commandements. Uberisch dans le lexique d'Elias, plus rigide, plus contraignant. Alors cette analyse me paraît intéressante parce que contrairement à ce qu'on a écrit parfois sur Elias, on voit que pour lui, le procès de civilisation n'est pas un simple transfert de ce qui serait que les règles du comportement de cour à ce qui devient la morale bourgeoise. Et donc, c'est une manière nuancée l'idée qu'il y aurait chez Norbert Elias un absolutisme du modèle de cour qui ensuite s'étendrait à la totalité de la société en commençant par les différents milieux de la bourgeoisie. Il y a au contraire la reconnaissance que ce procès de civilisation, caractérisé par cette nouvelle structure de la personnalité, elle-même fondée sur la capacité à contrôler les affects, peut s'opérer dans des lieux, des milieux et des modalités différentes. Et l'on voit ici qu'il est à la fois présent, mais sous des modalités différentes, dans la rationalité de cour, avec cette référence à Gracian et au calcul des comportements en fonction des relations sociales, et il est présent dans une modalité bourgeoise sous la forme d'une incorporation de commandements éthiques et religieux qui vont s'identifier avec la voie intérieure de la conscience. Pour cette référence à Balthazar Gracian dans le procès de civilisation n'était pas la première fois que Elias utilisait cette œuvre, puisque je rappelle donc que ce grand livre a été publié en 1939, mais que préalablement, en 1933, Elias avait écrit une thèse sur la société de cour, Die öffentliche Gesellschaft, qui n'a pas été ni soutenue à cause de l'arrivée des nazis au pouvoir et donc du départ d'Elias en 1933, début 1934 pour la France, et qui n'a été publiée qu'en 1954. Mais dans ce volume de la société de cour, Gracian était déjà présent dans un chapitre qui a pour titre, dans la traduction française, « L'étiquette et la logique du prestige », et un sous-chapitre qui a pour titre « L'art de manier les hommes », ce qui ramenait ici Gracian à une autre dimension. Se connaissant soi-même et connaissant les autres donne la possibilité non seulement d'exercer sa raison pour brider ses passions, mais aussi de manipuler, de manier l'autre. Et Elias citait trois aphorismes, en général avec ce qui est devenu le titre des aphorismes. L'aphorisme 117, « Ne parlez jamais de soi-même ». L'aphorisme 179, « Se retenir de parler, c'est le sceau de la capacité ». Et du coup, « Les pièges qu'on tend à la discrétion sont de contredire pour tirer une explication et de jeter des mots piquants pour faire prendre feu ». On voit cette définition des comportements tout entière conçue comme des machines qui doivent amener l'autre là où on veut qu'il arrive, c'est-à-dire soit par des mots piquants lui faire perdre justement le contrôle de ses affects et donc lui faire prendre feu, ou bien par la contradiction de soutirer à l'autre une explication qu'il n'aurait sans doute pas volontairement donnée. Cette idée que les comportements ne réfèrent pas à des règles intériorisées de la conscience ou de la morale chrétienne, mais se réfèrent à la praxis, c'est-à-dire dans ce cas-là, à la capacité de faire dire à l'autre ce que l'on veut qu'il dise et que lui ne voulait pas nécessairement énoncer. Un peu comme si finalement tous les comportements étaient des machines de théâtre, dont la légitimité est liée seulement à l'effet. Et du coup, il ajoute la maxime 14, qui se donne de la façon suivante. Ça, elle a pour titre « La chose et la manière ». Ce n'est pas assez que la substance, il y faut aussi la circonstance. Une mauvaise manière gâte tout, elle défigure même la justice et la raison. Au contraire, une belle manière supplée à tout, elle dore le refus, elle adoucit ce qu'il y a d'aigre dans la vérité, elle ôte les rides de la vieillesse, le comment fait beaucoup en toute chose. » Donc, Elias, en rapport, utilisant en 1933 dans la Société de Cour, en 1939 dans le Procès de civilisation, Balthazar Gracian, considéré comme ayant écrit le premier manuel de la psychologie de cour. Mais la question, et quel point de départ de ces cours, c'est quel est l'auteur que cite Elias ? Dans la mesure où vous l'avez entendu, est souvent cité tel quel dans le texte allemand d'Elias en français, il ne cite pas Gracian, puisque Gracian écrit en espagnol, je suppose qu'Elias ne connaît pas l'espagnol, et il ne se réfère pas au texte de Gracian. Il se réfère à la traduction française de Amelot de La Houssaye, et la question posée, c'est celle de savoir s'il y a une identité, une équivalence entre le texte de 1647, Oraculo Manual y Arte de Prudencia, et le texte de 1684, L'homme de cour. La réponse, évidemment, serait non, et du coup, cela amène à un exemple de ce qu'une traduction peut faire à un texte, c'est-à-dire à la fois le rendre, lui donner une circulation immense que l'original espagnol n'avait sûrement pas eue, et de l'autre côté, de lui attribuer des significations qui sont tout à fait autres que celles du texte original. C'est une leçon générale, mais ça peut être aussi une prudence, parce que, évidemment, quand vous avez une édition récente comme celle de Folio, qui vient d'être publiée il y a peu de temps, précédée d'un immense essai de Marc Fumaroli, vous avez sur la page de titre Balthazar Gracian, l'homme de cour. Balthazar Gracian n'a jamais écrit un livre qui s'appelait L'homme de cour. Il a écrit un livre qui s'appelait L'oracle manuel ou Art de la prudence. Et donc, du coup, vous avez cette idée que la traduction disparaît comme traduction et qu'on lirait à livre ouvert ce que Balthazar Gracian a écrit. Or, justement, ce n'est pas le cas et je voudrais le montrer à partir d'abord d'un triple écart entre la traduction française et l'original espagnol. Alors, l'écart de 37 années entre l'édition de Huesca et l'édition de la traduction à Paris en 1684. Là, les trois écarts sont quant à l'assignation ou l'attribution de l'œuvre, quant au titre de l'œuvre et quant à la langue de l'œuvre, qui va de soi. D'abord, l'assignation du texte. En 1647, je vais lire la traduction du texte de l'ensemble de ces longs textes qui font page de titre à eux tout seuls, ce qui est le cas de ce Oraculo Manual. La traduction serait « Oracle manuel et art de la prudence tiré des aphorismes que l'on trouve dans les œuvres de Lorenzo Gracian, publiées par Don Vincenzo Juan de Lastanosa, qui le dédie à l'excellentissime seigneur Don Luis de Haro, conde duque. Et ensuite, l'indication éditoriale, con licencia, avec licence, imprimé à Huesca par Juan Nogués en l'an 1647. Et l'on voit que cette page de titre est en elle-même déjà un exercice de ce que recommande Gracián dans son texte, c'est-à-dire un exercice de la dissimulation. Première dissimulation, sur la page de titre, l'auteur est donné comme Lorenzo Gracián et non pas Baltasar Gracián, qui était Lorenzo, le nom d'un des frères de Baltasar. Et la raison de ce déguisement est que Gracián, qui est membre de la compagnie de Jésus, qui est un jésuite, veut éviter l'examen préalable de la censure propre à la compagnie. Tout jésuite qui publiait un texte devait le soumettre à les autorités de la compagnie, et on le verra, pour des raisons qui sont très compréhensibles, Gracián préférait que son texte, pour qu'il puisse être publié, ne soit pas soumis à cette première censure. Donc, en cachant son nom sous celui avec le pseudonyme, enfin, utilisant celui de son frère, qui n'était pas jésuite, il y avait une possibilité d'éviter cette première censure. On peut rappeler que Gracián a fait une carrière comme novice, d'abord entré dans le noviciat des jésuites en 619, des études dans les collèges jésuites de Calatayud et de Saragosse, et en 1627 est devenu prêtre et professeur dans différents collèges de la compagnie, à Calatayud, à Turia, à Lérida, à Gandia, pour arriver en 1636 à Huesca, où il reste 3 ans, avant une itinérance comme confesseur d'un grand, comme prédicateur, comme professeur de collège, particulièrement avec des séjours en Saragosse, Madrid, Barcelone, et il revient à Huesca en 1646, et c'est là où est imprimé en 1647 le Oraculo Manual y Arte de Prudencia. Et dans les préliminaires du livre, on trouve évidemment pas de référence à une approbation par la compagnie ou par les autorités de la compagnie. On trouve une approbation pour rappeler que dans les livres espagnols des 16e, 17e, on trouve de manière très systématique, qu'on rencontre dans d'autres langues, mais d'une manière peut-être moins systématique, c'est-à-dire les traces du processus de censure. Et dans les livres du siècle d'or, toujours doivent être publiées les approbaciones, les approbations de ceux qui ont lu comme censeur les livres, et donc on dit qu'il était possible de le publier, de lui donner une autorisation, licencia, et parfois un privilège, ou même souvent un privilège. Et donc ce texte-là, le texte du censeur, est publié dans le livre lui-même, et dans ce cas-là, c'était un professeur de théologie de l'université de Huesca, qui est en même temps membre de l'ordre de Saint-Augustin, qui a donné son approbation avec la phrase suivante: « Il n'y a dans ce livre aucune chose contre notre sainte foi, c'est avant tout un espejo de la razón, un miroir de la raison, moderna maravilla de acierto, une merveille moderne de juste vérité, aciertos, les vérités aiguës. » Et donc, du coup, une autorisation donnée le 11 mars 1647 et qui est accompagnée d'une autre approbation, qui est celle du vicaire général du diocèse, qui était aussi une règle dans le cas de livres publiés au siècle d'or, et donc du coup aussi d'une permission qui est la licencia donnée par la chancellerie royale d'Aragon à Saragosse le 24 mars 1647. Quand on parle de l'Espagne, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'une monarchie composite et que le roi d'Espagne est en fait roi de Castille et Léon, roi d'Aragon, et aussi il a été entre 1580 et 1640 roi de Portugal, et que chacun de ces domaines, la Castille, l'Aragon et le Portugal, avait leur propre chancellerie, leur propre régime administratif et judiciaire, et en particulier lorsqu'on parle des livres, une licence et privilège pouvaient n'être appliqués que dans l'un ou l'autre de ces royaumes, ce qui laissait la liberté pour les autres de publier le texte qui n'était pas couvert d'un privilège, par exemple, au Portugal ou en Aragon. C'est ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, dans l'année 1605, il y a 5 éditions de Don Quichotte, 2 à Lisbonne et 1 à Valence, parce que le privilège a été demandé seulement pour la Castille. Et donc, du coup, les libraires, imprimeurs, éditeurs de Lisbonne ou, dans un autre cas, de Valence, ne se sentent pas tenus par ce privilège. Alors, on voit ici le dispositif qui permet la publication à partir de l'approbation de ce professeur de théologie de l'université de Huesca. Première dissimulation. La deuxième, qui est une dissimulation dans un sens, c'est que le fait de convoquer l'autorité de publier par Don Vincencio Juan de Lastanosa. Lastanosa est un noble qui vit à Huesca et c'est le modèle, en quelque sorte, du mécène baroque. Il possède une immense bibliothèque, une grande bibliothèque de plus d'un millier de titres. Il possède une collection, un cabinet de curiosités. Il possède une collection d'antiques ou d'antiquités. Et surtout qu'à Huesca, là où était Gracián entre 1636 et 39, et puis à son retour en 1646, Lastanosa, avec un certain nombre d'hommes de culture ou de lettres, réunit dans son jardin ce que l'on appelle en espagnol tertulia, c'est-à-dire une sorte d'assemblée informelle, mais où s'échangent des propos érudits et savants. Et la page de titre le fait apparaître comme l'éditeur du titre, du livre, puisque c'est lui qui le publie. Et c'est lui qui prend en charge, en quelque sorte, le destin du livre, puisque c'est lui, par exemple, qui signe l'avis la dédicace. Elle est signée non pas de Gracián, Lorenzo ou Baltasar, elle est signée de Lastanosa, qui agit en quelque sorte en protecteur et éditeur du livre. Et le troisième élément de prudence, sinon de dissimulation, c'est la dédicace à ce Don Luis Méndez de Haro, comte duc, qui était un parent du ministre principal du roi, parent de Olivares, et qui donc avait un poids politique tout à fait considérable. Et la rhétorique de la dédicace signée de Lastanosa jouait sur une figure qui consistait à dire qu'en fait, le modèle duquel étaient déduites toutes les règles du comportement qui font un homme de qualité étaient en fait déduite de l'existence et de l'original vivant qui était Luis Méndez de Haro. Je cite une traduction. Il prétend ne point paraître impossible somme de préceptes abstraits face à son vivant original. D'ailleurs, le livre est cette somme de préceptes abstraits, mais il a un vivant original. Il offre en chiffres un homme de qualité, varón de prendas, et de ce qui fit d'abord son admiration en vous, il a fait ensuite un art. C'est-à-dire une rhétorique qui rentrerait dans ces rhétoriques, ou bien qui attribue à celui à qui on dédie l'œuvre la paternité de l'œuvre, qui était un modèle classique. Corneille l'utilise avec Richelieu, Galilée avec les princes Médicis, ou une autre rhétorique qui faisait du contenu abstrait d'un traité, comme ici cette série de préceptes, maximes ou aphorismes, une traduction abstraite des comportements au vif de celui qui était le modèle auquel le traité était dédié, mais qui en fait en était le véritable auteur. C'est toujours la même rhétorique de la dédicace, c'est-à-dire de faire que celui à qui on offre le livre le possédait déjà parce qu'il en était l'auteur, parce que Corneille avait donné les principes de l'art dramatique, parce que les Médicis avaient donné leur nom avant même leur découverte aux astres médicéens, et ainsi, parce que ici, Luis Méndez de Haro, Conde Duque, est le modèle, en fait, l'auteur, dans ses actes, de ce que la Stanosa ou Gracia n'ont fait que transcrire dans le livre. On a donc là une, et avec un autre mot intéressant dans la, dans cette dédicace, qui est un thème fondamental aussi du thème du livre de Gracian, chiffré au sens d'un langage secret, un code. Et ici, ce qui était le code à déchiffrer est l'excellence du dédicataire. Et le déchiffrement, c'est le livre lui-même. Et j'utilise là, entre parenthèses, une autre traduction, puisque donc on a Balthazar Gracian, l'homme de cour, qui est le texte de Hamelot de Lahousset, édité par Sylvia Roubaud et avec cette longue introduction de Fumaroli, mais avec cette tension d'attribuer un titre, l'homme de cour, à Gracian, qui a écrit un livre qui avait un autre titre, et un effort pour, en quelque sorte, donner une traduction de Gracian qui ne soit pas dépendante de celle de Hamelot de Lahousset, vous le trouvez dans un petit livre de la collection Point, où là, la traduction est une traduction moderne, qui se veut respectueuse du style, et en particulier de l'oralité présente dans Gracian, de Benito Pellegrin, et qui, comme vous le voyez, a changé même le titre, Art et figure du succès, entre parenthèses, oracle manuel, Balthazar Gracian, c'est le livre de Gracian sans Hamelot de Lahousset, et avec quelque chose de précieux qui est d'avoir traduit effectivement les préliminaires du livre espagnol, alors que dans ce livre-là, les préliminaires sont évidemment ceux du livre de Hamelot de Lahousset et pas ceux de Balthazar Gracian. En même temps qu'il y a cette dissimulation du nom et cette prudence avec l'utilisation de l'Astanosa comme éditeur, et de Luis Méndez de Haro comme dédicataire, dans le texte de la présentation du livre de, espagnol, il y a l'affirmation d'une forte identité auctoriale dans la mesure où le livre est présenté comme une série d'aphorismes, mais à la différence des recueils d'aphorismes classiques qui étaient des recueils d'aphorismes pris dans de nombreux auteurs, cités ou non, un peu comme le deviendront les recueils de lieux communs, ou le sont à la Renaissance, les recueils de lieux communs, où on extrait des sentences d'auteurs multiples, parfois attribuant chaque sentence à son auteur, ou parfois gommant cette origine auctoriale. Ici, les aphorismes ne sont pas des une compilation d'auteurs multiples, mais ils sont, comme je l'ai lu, tirés des aphorismes que l'on trouve dans les œuvres de Lorenzo Gracian, ce qui renvoie à l'idée d'une unité d'auteur, puisque tous les aphorismes sont référés à des œuvres antérieures du même auteur. J'y reviendrai d'un mot, mais effectivement, Balthazar Gracian, sous le nom de Lorenzo Gracian, avait publié auparavant deux livres qui servent de matrice à un certain nombre d'aphorismes, El Héroe, le héros, en 1639, et El Politico, qui est un livre sur Ferdinand d'Aragon, en 1640. Et sur les 300 aphorismes qui se trouvent dans El Oraculo Manual y Arte de Prudencia, 72 viennent soit du héroé, soit du politico. Il y a donc une unité auctoriale qui est affirmée, même si elle est donnée sous un nom qui n'est pas le nom véritable de l'auteur et dans une référence à une publication qui n'est pas assumée non plus par l'auteur. Alors, lorsqu'on passe à la page de titre de 1684, on est dans un tout autre monde. Le titre « L'homme de cour » traduit de l'espagnol de Balthazar Gracian par le sieur Amelot de la Housset avec des notes à Paris chez la veuve Martin et Jean Boudot, rue Saint-Jacques, près d'ici, au Soleil d'Or, 1684, avec privilège du roi. Donc deux noms sur cette page de titre, le nom de l'auteur, ici rétabli dans son identité propre, c'est-à-dire Balthazar Gracian et non pas Lorenzo, et d'autre part le nom du traducteur de l'espagnol, le sieur Amelot de la Housset. Alors, dans la préface, Amelot de la Housset justifie cette attribution à Balthazar Gracian à partir d'une identification qui avait été faite par la bibliographie de Nicolas Antonio, qui est la Biblioteca Hispana, et qui est un répertoire des auteurs qui ont écrit en langue espagnole, qui identifie Lorenzo comme Balthazar. Je cite Amelot de la Housset, « Mais comme toutes les personnes qui ont vu les œuvres de Gracian ne manqueront pas de demander pourquoi je lui donne dans mon titre le nom de Balthazar, au lieu de celui de Laurent, qu'il porte dans les éditions de Madrid, de Huesca, de Bruxelles, d'Anvers, je suis obligé d'en dire ici les raisons, et par conséquent de parler de sa personne et de ses livres, ce que d'ailleurs on sera bien aise d'apprendre dans le monde, la plupart des gens de lettres aimant à savoir les particularités de la vie des hommes qui ont excellé dans cette profession. Je dis donc que j'ai cru devoir en cela me conformer au sentiment du savant Don Nicolas Antonio de Sevilla, qui nomme ainsi notre auteur au commencement du second tome de son catalogue des écrivains espagnols intitulé « Biblioteca Hispana ». Alors, il cite, en traduisant Nicolas Antonio, « Laurent, ou plutôt Balthazar Gracian, de Calatayud en Aragon, religieux de la Compagnie de Jésus, personnage d'une érudition connue par beaucoup de livres espagnols, qu'il a mis au jour sous le nom de Laurent, qui, à ce que nous croyons, était son frère, fut recteur des collèges de Tarragone en fut recteur du collège de Tarragone en Catalogne, charge qu'il exerçait lorsque Don Vicencio Juan de la Stanosa le loua sous son propre nom de Balthazar dans ses dialogues des médailles. Donc une restitution de tout cela. Je conclus que mon auteur est le père Balthazar Gracian, jésuite. Et je crois que sa compagnie, qui est un séminaire de rares esprits, me sera meilleur gré de l'avoir fait connaître pour ce qu'il était qu'au censeur de l'avoir fait passer pour ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire pour un écrivain monté sur des échasses incompréhensibles et qui ne sait pas lui-même ce qu'il veut dire. Et ça, c'est une allusion au père Bouhours qui avait attaqué, j'y reviendrai, Balthazar Gracian sans mentionner ou donner d'importance à sa qualité de jésuite, mais plutôt comme un auteur qui est incompréhensible et dont le style est si opaque que, pour Bouhours, on ne comprenait pas quelle était son intention. Le deuxième nom, c'est celui donc de Amelot de la Housset, qui est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il a été ambassadeur, secrétaire de l'ambassadeur à Venise, et il s'est spécialisé dans les traductions. Et son curriculum n'est pas sans intérêt, puisque, mettant à profit son séjour à Venise, il a traduit une histoire du gouvernement de Venise de Sarpi en 1676. En 1680, il a traduit Machiavel, une sorte d'anticipation de ce que disait Norbert Elias. Le même traducteur, Amelot de la Housset, a compris ou mis en rapport la politique de cour et la psychologie de cour. En 1683, il a traduit un autre traité de Sarpi, qui est l'histoire du Concile de Trente, et un traité sur les bénéfices ecclésiastiques. Et en 1684, la même année que l'homme de cour, il a traduit trois livres de Tacite, et sous le titre de « Discours politiques sur Tacite ». Avant d'y revenir, ce qui fait l'unité de ces traductions, c'est à la fois une juste définition de la politique fondée sur la raison d'État, et Amelot de la Houssaye appartient à cette tradition du tacitisme qui peut conduire à Machiavel, une raison d'État qui n'est pas commandée par des principes moraux, éthiques, religieux, chrétiens, mais qui a sa logique propre. Et c'est d'autre part la justification, de là l'intérêt pour Sarpi, la justification des droits des princes par rapport à l'autorité du pape. Et il y a chez Amelot de la Houssaye une sorte de justification par ces traductions du gallicanisme, une sorte de distance du pouvoir royal par rapport à l'autorité pontificale, et même aussi une proximité avec le jansénisme. On voit donc deux pages de titres complètement différentes. Et donc, du coup, aussi, deux titres et deux livres complètement différents. Si l'on commence par L'homme de cour de 1684, son titre, L'homme de cour, qui donc est une invention de Amelot de la Houssaye, est explicité par la préface et par la dédicace au roi, à Louis XIV, avec un double modèle. Le premier modèle est le modèle, on va dire, curial, le modèle de la cour. Je cite le début de la préface d'Amelot de la Houssaye. Le livre que je vous donne porte un titre qui vous en doit donner une haute idée, donc L'homme de cour. Et si les préfaces ne sont nécessaires que pour expliquer au lecteur le sujet et le dessin des livres, le mien pourrait bien s'en passer, puisque son titre exprime non seulement tout ce qu'il traite, mais encore à quel usage et à quels gens il est propre. Il n'est donc pas propre à tout le monde, me direz-vous. Non, certes, il ne l'est qu'au grand monde et aux personnes qui savent le monde. C'est un homme de cour qui n'est pas d'humeur à se familiariser avec le vulgaire, il ne se plaît qu'avec ses égaux. Et comme d'ordinaire, il ne parle qu'à demi-mot. Il ne saurait s'assujettir à converser ni avec les petites gens, ni avec les petits esprits qui n'entendent ce qu'on leur dit qu'à force de parole. On voit donc d'emblée que l'objet et le destinataire sont identifiés. L'homme de cour, il n'y a pas du tout l'idée d'une destination universelle, tout au contraire. Il y a l'idée d'une circulation qui doit être restreinte, écartant à la fois les petites gens, le vulgaire, avec lequel on ne se familiarise pas, et d'autre part, en écartant les petits esprits, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables d'entendre ce langage, qui n'est pas un langage où il y a force de parole, mais qui est un langage à demi-mot, une sorte de code ou de chiffre. Il y a là une définition de ce destinataire qui, en quelque sorte, est en contradiction avec ce qui, dans un sens, est rendu possible par la circulation d'imprimés et qui, donc, a aussi suscité inquiétude ou effroi. C'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où le livre est imprimé, il peut tomber entre toutes les mains, y compris les mains de ceux qui ne seront pas capables de le comprendre et donc qui en corrompent le sens, comme éventuellement les ouvriers typographes dans l'atelier qui ont pu en corrompre la lettre. Et cette idée de Amelot qui est que par le titre, on définit le destinataire et qu'il est à distance de ce vulgaire ou de ces petites gens. En même temps qu'il est homme de cour, le modèle qui est marqué là est celui de l'homme d'État. Amelot continue. C'est un homme de cabinet qui ne parle jamais qu'à l'oreille, encore faut-il l'avoir bien fine pour ne rien laisser échapper. C'est un homme d'État qui, pour user des termes de Commines, fait son compte que ni bêtes ni simples gens ne s'amuseront point à lire ses maximes, mais que les princes et les autres gens de cour y trouveront de bons avertissements. C'est la réitération de cette idée, et finalement, qui là est très proche de Gratian. Qu'est-ce qui permet définir un public particulier par rapport à une circulation théoriquement universelle des livres imprimés, c'est évidemment leur écriture. C'est-à-dire le fait qu'ils ne se familiarisent pas avec le vulgaire et que cette écriture plusieurs fois mentionnée comme parler à l'oreille, ne parler qu'à demi-mot, ne pas utiliser force de parole, est en quelque sorte cet instrument qui permettra d'éloigner, en le déroutant, le vulgaire et de maintenir la circulation d'un livre imprimé dans les mêmes limites sociales que peuvent être celles d'un livre manuscrit, avec une sorte d'homologie entre qui écrit et pour qui il écrit, et en même temps ici une homologie entre le sujet dont il est traité, qu'est-ce qui définit, quelles sont les qualités, les propriétés d'un homme de cour avec le public auquel le livre est destiné, c'est-à-dire l'homme de cour ou les hommes de cour lui-même. C'est donc un premier élément, et très important par rapport à Gratiane, de briser avec l'idée d'une destination universelle pour curialiser le texte. L'objet est un homme de cour, le lecteur est un homme de cour. Le deuxième modèle, dans un texte assez extraordinaire qui est présent dans les préliminaires du livre de Hamelot, c'est la dédicace, l'épître au roi, l'épître à Louis XIV, qui est extraordinaire dans ce sens que c'est un genre évidemment rebattu, les louanges du roi, en particulier dans le cas de Louis XIV, et chaque auteur est confronté à l'idée d'inventer quelque chose qui soit original dans ce genre particulièrement usé. Et Hamelot a cette idée, à partir de Gratiane, de louer Louis XIV comme Gratiane l'aurait sans doute fait s'il avait connu ce roi. Et le dispositif de cette préface, de cette épître au roi, c'est d'écrire un panégyrique de Louis XIV en français, mais dans la langue de Gratiane. Je cite. Et pendant que je travaillais à la traduction, que j'ai l'honneur de lui présenter aujourd'hui à Sa Majesté, il m'est arrivé mille fois de regretter cet Espagnol, persuadé que je suis, qu'ayant un si bel esprit, une si fine plume et tant de passion d'éterniser la gloire des héros, il eût eu l'ambition de s'immortaliser lui-même par quelque beau panégyrique de votre Majesté, dont la traduction eût servi de digne épître à mon livre, car il n'y a que des esprits transcendants comme lui, qui soit capable de faire l'éloge d'un prince comme vous. Donc, on voit encore poindre cet élément clé de toute la rhétorique des dédicaces, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le dédicataire qui est immortalisé par la dédicace, c'est celui qui l'écrit. Et qu'on voit aussi cette idée d'un jeu, puisque Hamelot va imaginer la dédicace et la louange qu'aurait écrite que Gratiane, et que finalement le texte que lui compose n'est que la traduction de ce texte imaginé. Et à partir de là, il emprunte à tous les livres de Gratiane qu'il connaît, El Héroe, El Politico, l'art de la prudence, un certain nombre de vocabulaires, de lexiques qui sont différents des lexiques habituels, des louanges écrits par des auteurs français qui ne connaissent pas Gratiane, parce qu'ils surprennent par leur bizarrerie pour certains d'entre eux. Cette panégyrique de Gratiane écrit par Hamelot commence avec l'idée que le roi est, comme il est indiqué, plausible et grand. C'est la première des qualités dans ces titres extraordinaires que Gratiane a utilisé et que Hamelot rapatrie sur Louis XIV, avec cette idée qu'il donne en note « Par le mot plausible, les Espagnols entendent un homme d'un mérite si distingué qu'il remporte une estime universelle. » Et par un mérite plausible, un mérite dont les envieux même de la personne ne sauraient disconvenir. Mais évidemment, c'est un mot qui n'a pas ce sens-là immédiatement en français, donc il y a un effet de surprise, de décalage qui est donné par l'emploi de ce vocabulaire inattendu. Il suit ce même modèle pour une deuxième série de lexique de louanges. Le roi est diligent et intelligent. Il a la diligence et l'intelligence que l'on croyait être deux choses incompatibles, mais qui, lorsqu'elles se rencontrent, pour Gratian, définissent le prodige de celui qui gouverne. Dire « el diligente y inteligente », c'est dire tout ce que vous êtes. C'est vous désigner autant que si l'on vous appelait par votre propre nom. Tout votre règne vérifie ce qu'il dit, que l'intelligence et la diligence viennent à bout de tout, c'est-à-dire la capacité de l'action avec la diligence et la réflexion et de la raison avec l'intelligence. Et à partir de là, Hamelot va énumérer les actions du roi qui ont montré à la fois diligence et intelligence, c'est-à-dire l'expulsion des Huguenots de France, ou du moins les mesures qui vont conduire à l'expulsion et qui sont d'anéantir les Huguenots, l'interdiction des duels, qui était une saignée de l'aristocratie, la réforme des offices avec une suppression d'un certain nombre d'offices considérés comme inutiles, ou encore avec les grands jours, la suppression d'un grand nombre d'abus dans l'administration et la justice. Et il va terminer avec deux autres figures qui font originalité, la figure de Louis XIV comme un prince universel, comme un prince incompréhensible, qui pour lui sont les traductions d'un prince de todas prendas, incompréhensible parce que son secret est impénétrable et, comme il le dit, par son fond qui est sans fond. Le fond avec un S, c'est sans fond, sans S. Et le dernier vocabulaire est celui du prince comme un grand tout qu'il emploie, il emprunte au livre de Gratian, El Héroe. Enfin, un prince qui, pour user encore des termes de Gratian, dont je ne suis ici que le truchement, est un grand tout, et non seulement renferme dans une rare singularité la catégorie de toutes les perfections, mais encore dans chacune l'excellence de premier. Et il termine en disant que je finis donc, sire, en suppliant très humblement votre majesté de vouloir agréer ce livre, qui est un recueil des meilleures et des plus délicates maximes de la vie civile et de la vie de cour. Il y en a même quelques-unes où elle se verra représenter au vif le despero, auquel la langue française n'a pu encore trouver de nom assez expressif, tout énigme qu'il est, n'en fera point une pour vous, qui y reconnaîtrait d'abord que Gratian a fait votre définition en voulant faire celle d'un homme parfait. Alors, on trouve là une grande richesse, finalement, une grande densité dans ce genre pourtant si banal et usé, puisqu'on retrouve la même pratique que celle de l'Astanosa dans la dédicace de l'Oraculo Manual, c'est-à-dire de considérer que le roi n'est pas un exemple ou une illustration des principes, mais que les principes sont la traduction sous une forme de maxime de ce qu'il est dans son action. Et donc, du coup, Gratian a, en fait, fait la définition et le portrait du roi en énumérant les maximes qui définissent un homme parfait. Et d'autre part, il y a cette discussion sur ce terme qu'il ne traduit pas, El despero, disant que dans la langue française, évidemment, il n'y a pas de traduction. Et en fait, il y en a une, puisque dans la maxime 127, il a traduit cette expression avec l'emploi d'un terme qui aura une belle suite en philosophie, en particulier avec l'œuvre de Vladimir Jankélévitch, le « je ne sais quoi ». et la maxime 127, qui a pour titre en espagnol « El despejo », devient dans la traduction française « El despejo en todo », c'est le début de la maxime, ou de l'aphorisme, pour rester fidèle à la page de titre, l'aphorisme. L'aphorisme ici est traduit comme « le je ne sais quoi », et le début, « c'est la vie des grandes qualités, le souffle des paroles, l'âme des actions, le lustre de toutes les beautés. Les autres perfections sont l'ornement de la nature, le je ne sais quoi est celui des perfections. » Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner, il tient beaucoup plus du privilège que de l'étude, car il est même au-dessus de toute discipline. Il ne s'en tient pas à la facilité, il passe jusqu'à la plus fine galanterie. Il suppose un esprit libre et dégagé, et à ce dégagement, il ajoute le dernier trait de la perfection. Sans lui, toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Il l'emporte sur la valeur, sur la discrétion, sur la prudence, sur la majesté même. C'est une route politique par où on expédie bientôt les affaires et enfin l'art de se retirer galamment de tout embarras. Donc cette traduction de « El despejo en todo » par le « je ne sais quoi » est à la fois cette idée qu'il ne s'agit pas d'une qualité ou d'une perfection particulière, mais qui est la manière parfaite d'exercer les perfections. C'est l'ornement de toutes les perfections, avec cette très belle phrase, cette très belle formule de Hamelot, les autres perfections sont l'ornement de la nature, le je ne sais quoi est l'ornement des perfections. D'autre part, comme on le voit, puisqu'il tient plus du privilège que de l'étude, on voit que El despejo ou le je ne sais quoi est un exercice parfait des perfections, mais libre, dégagé, négligent. Et là, on est très proche, je ne sais si Hamelot l'avait lu, on peut le supposer, on est très proche de la définition de Castiglione dans Il Cortegiano, dans Le Courtisan de 1527, c'est-à-dire l'idée que ce qui définit le courtisan, c'est justement une forme de je ne sais quoi. C'est ce que Castiglione appelle la sprezzatura. C'est avec le S privatif, c'est-à-dire le manque d'après. Quelque chose qui n'est pas le résultat pesant de l'étude, qui n'est pas la visibilité de l'apprentissage, mais qui est le naturel, le spontané, ce qui va être traduit en espagnol par El Descuido, par Boscan, en 1634, c'est-à-dire la négligence, mais une négligence qui est perfection et non pas son inverse. Donc on voit que pour Hamelot, qui dit qu'on ne traduit pas El Despejo, mais qui traduit dans la maxime 127, on a affaire à la fois à l'exercice parfait de toutes les qualités qu'il a énumérées pour le roi, et que l'on a affaire aussi à cette dimension d'un naturel, d'une désinvolture, d'une négligence aisée qui se marque dans l'exercice de cette perfection. On voit donc que dans les préliminaires, l'épître au roi et la préface de Hamelot de la Housset, le livre de Graciane devient à la fois un miroir du prince, puisque finalement, Graciane, dans cet homme parfait, a fait le portrait anticipé de Louis XIV, et d'autre part, il devient le modèle de l'homme de cour, avec l'ensemble des aphorismes qui sont autant de maximes et de sentences qui définissent les perfections de l'homme de cour, qui culminent dans cet despejo. On a donc du coup un livre qui est installé dans ce moment particulier, 1684, c'est le moment de l'installation de la cour à Versailles, y compris de l'administration du roi, et d'une manière plus permanente, de la cour, et c'est là où le modèle curial et le modèle royal se rencontrent. On est très loin, on va faire une petite pause de 5 minutes, mais on est très loin, évidemment, dans cette double définition curiale et royale du livre traduit de Gratian, de ce que l'on peut établir comme étant, à partir, par exemple, de la page de titre ou des préliminaires du livre de 1647, l'intention ou la destination de l'oraculum manual. Ce sera le début de la seconde partie de cette cour, puisque nous pouvons faire une petite pause et reprendre à 11h10, si vous le voulez bien.